Moi j'ai faim.
Et moi aussi j'ai faim.
Moi aussi j'ai faim.
Moi aussi j'ai faim.
On mange quoi?
Mais je sais pas moi. Vous avez qu'à écouter Radio Oulala.
Une petite idée pour manger. C'est Cuisine du Monde avec Alpha Sablé sur Radio Oulala.
Nous nous retrouvons dans la cuisine d'Alpha Sablé. Et oui, c'est l'heure des bons petits plats. Et aujourd'hui, nous sommes avec Pierrette. Bonjour Pierrette.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Pierrette?
Alors, je vous propose un plat traditionnel de la Sarthe, la marmite sartoise.
C'est pour combien de personnes?
Alors, c'est pour 10 personnes. La préparation, c'est 30 minutes. Et la cuisson, c'est 30 minutes aussi.
Et au niveau des ingrédients, qu'est-ce que faut-il pour faire une bonne marmite sartoise?
Alors, il faut 700 g de blanc de poulet de loué, 120 g d'arrière de lapin désossé, c'est-à-dire qu'on enlève les os, 140 g de champignons crus préparés, 100 g de jambon, 500 g de chou vert, 200 g de carottes, ensuite 1 demi-litre de vin de Janière, là aussi c'est le vin de la Sarthe. Hein.
Donc on très peut bon. Prendre un petit verre pour accompagner
oui,
quand
oui,
on fait la cuisine, bien sûr.
Pour, voilà, pour voir la saveur que ça va donner. Hein. 2 décilitres de crème, de l'huile d'arachide et de noix, du sel et du poivre.
Très bien. Alors, quelle est la marche à suivre pour faire cette recette?
Alors, il faut tailler à l'avance le poulet et le lapin. Alors, on précise en aiguillette, ça veut dire en fine lame. Le jambon et les champignons en petits bâtonnets. Le chou en lanière et les carottes en julienne. Hein. Exemple, hachoir électrique, hein, on peut faire ou hachoir électrique en fait. Après, vous salez directement les légumes, les cuire à la vapeur 10 minutes dans un couscoussier ou une marmite. Hein. À défaut, une passoire dans un faitout. Mettre à raidir dans un sautoir les aiguillères, ça veut dire à rôtir en fait, hein, de poulet et de lapin. Avec l'huile et assaisonner avec l'huile de noix. Hein, on met d'abord de l'huile tout court et l'huile de noix. L'huile d'arachide et l'huile de noix. Ajouter aussitôt les champignons, bien mélanger le tout et mettre le jambon. Sauter 2 ou 3 fois et réserver au chaud. Ensuite, déglacer avec le vin de Janière. On peut se reprendre un petit verre, mais ce serait peut-être exagéré. Réduire de 3/4, ajouter le fond de veau, puis la crème. Faire bouillir quelques instants, 1 minute environ, rectifier l'assaisonnement, goûter, voir si c'est bien, remettre la garniture dans le sautoir et donner quelques bouillons pour bien enrober le tout. Et voilà, et il n'y a plus qu'à déguster.
Et avec un petit Janière.
Oui, alors là, ça sera le 3e verre, c'est peut-être là vraiment de l'excès. Voilà. Alors la recette a été inventée par un restaurateur de Brulon qui était installé au restaurant du Grand Cerf. Joël Le Toll, alors ministre, a été le premier à la déguster.
Donc c'est une recette d'un restaurateur de Brulon.
Oui.
D'accord, c'est sa recette, voilà. Sa marmite sartoise.
Qui est devenue une recette départementale et même plus.
Et Pierrette, toi tu aimes bien cuisiner?
Écoute, j'ai un mari cuisinier. Donc, donc j'aime surtout déguster. Mais bon, bien sûr, je cuisine un petit peu. Je cuisinais, bien sûr, puisqu'Alain était au travail. Moi, je faisais la cuisine. Mais des fois, c'est frustrant, d'ailleurs, d'avoir un mari cuisinier.
Ah, parce que t'as pas de place...
D'abord, t'oses pas, même quand t'as des amis. Ils peuvent penser que ce sera meilleur si c'est Alain.
Donc, t'es la petite main qui est là... qui.
Exactement, je fais la pluche, la plonge. Je dresse la table, c'est important une belle table.
Ah mais oui, c'est l'ambiance. Il doit avoir un très joli plat, mais si l'assiette est sale,
oui,
on peut
oui.
perdre des étoiles.
Et puis une jolie table avec des fleurs, des bouquets de fleurs d'automne, de feuilles d'automne, voilà.
Et donc quel est le plat que tu préfères manger quand ton mari cuisine?
Ah, c'est compliqué là, il y en a beaucoup. Légumes, voilà.
Plus le poisson.
C'est variable, hein. C'est variable.
Et donc, Pierrette, toi, tu es à Alpha Sablé depuis combien de temps?
Alors, j'y suis depuis 2011.
Donc, tu suis cette aventure de folie, quand même, avec plein de rencontres.
Oui, alors Annick m'avait déjà repérée. Elle avait dit, Pierrette, quand tu seras à la retraite, tu viens à Alpha.
Alors, ton ancien métier, donc c'était...
Alors, moi, je travaillais à la poste.
D'accord.
Voilà. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose. J'ai envie de partager avec les autres, hein, et puis d'aider. Donc là, c'est formidable parce que c'est très convivial. Les gens que nous rencontrons, comme la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure, c'est, je vois une élève, un jour, elle m'a apporté un bouquet de fleurs et je lui ai dit, elle me dit, c'est pour toi. Je dis, mais c'est pas mal. Elle me dit, si. Elle me dit, je les ai vus. J'ai dit, tiens, je vais les offrir à Pierrette. Elle venait en cours. Et je dois dire, j'étais très touchée, quoi. On est très touchés par ces gestes-là.
On sent qu'il y a quand même un grand engagement de la part des apprenants pour apprendre le français. Oui. Voilà, c'est beaucoup d'efforts, quoi.
Oui, mais ça se fait aussi dans une très bonne ambiance, chaleureuse et tout. Et ça, c'est important pour eux et pour nous, quoi. C'est pas la contrainte, c'est les aider avec nos moyens et avec les leurs. Pour qui, d'ailleurs, déjà l'effort de venir prendre des cours pour bien parler le français, c'est déjà un pas de fait, hein, vers l'assimilation, hein, l'intégration.
J'imagine, on donne mais on reçoit beaucoup à Alpha.
Ah oui, 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 ça nous manque, c'est vrai que... Puis alors, on a une directrice qui est tellement active, Annick Davy, elle est formidable, donc on a toujours des trucs, on est toujours... On est beaucoup pris, en fait, hein. Soit on part en voyage, soit on fait un livre de recettes, hein, parce que les recettes que je vous ai lues est dans un livre que nous vendons. En fait, c'est le Rotary de Sablé qui nous a aidés financièrement à l'éditer. Mais il était conçu par les élèves et par des bénévoles, hein, avec des très belles images d'ailleurs.
Donc ça, on pourra le retrouver aussi le 19 décembre,
le 19 décembre, vous pouvez
sur le marché.
En vente, voilà.
Il y aura aussi ce livre de cuisine. Eh bien, la marmite sartoise, on va la déguster.
À consommer sans modération.
Avec le petit Janière,
oui,
voilà.
Pareil. Par contre, avec modération.
Avec modération, ce dernier. À bientôt et merci
à
beaucoup.
À bientôt, Pierre. Merci à vous. Merci à tous qui nous écoutez. Et prenez soin de vous. Ça s'appelle Vol au vent. De mes mains, j'ai pétri la pâte, d'un geste lent, sans hâte. Les verser dans une grande jatte et ranger dans le placard, loin de ma boîte à cafards, pleine de nostalgie du mal de mon pays. Les jours se traînent et s'éternisent. Souvent, j'ai pensé à refaire ma valise. Mais un matin, qui s'étirait un peu de chagrin, j'ai attrapé la main tendue et fus soudain entourée d'un essaim d'abeilles rieuses, décidée à me rendre heureuse. Alors, j'ai ressorti ma pâte, l'ai travaillée sans relâche, jusqu'à ce qu'elle devint une montagne de levain. Et j'ai cuit mon plus beau gâteau à vous offrir comme un cadeau.
Donc après cette cuisine du monde avec Pierrette, je me retrouve avec Sonia pour un portrait d'une habitante. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Donc c'est chouette parce que tu t'es proposée pour ce portrait d'un habitant.
Oui.
Et donc nous allons faire le questionnaire de Marcel Proust toutes les deux.
Oui.
Donc je te présente, voilà, vite fait. Donc, tu es donc Sonia, tu étais auparavant, avant de venir à Sablé, donc tu étais au Mans.
Oui.
Et puis, donc, ça fait 3 ans et demi que tu habites dans le quartier.
C'est ça.
Et tu es également donc, bénévole au niveau de l'APE et aussi bénévole à Alpha Sablé.
J'étais. J'y ai été, mais j'y suis plus.
Plus maintenant.
Oui.
Ok. Eh bien, nous allons commencer le questionnaire pour faire plus ample connaissance. Alors Sonia, le principal trait de ton caractère ?
Persévérante, je pense.
Mmh. La qualité que tu désires chez un homme ?
L'honnêteté.
L'honnêteté. La qualité que tu préfères chez une femme ?
Sensualité.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Sincérité.
Parle bien fort.
Sincérité.
Voilà, parce que c'est des jolis mots alors qu'ils résonnent dans ce studio.
Bien sûr.
Ton principal défaut ?
C'est moins joli mot là, c'est râleuse.
Ok. Donc pas ce soir ?
Non.
D'accord. Ton occupation préférée, Sonia ?
je regarde beaucoup la télé, bien que ce ne soit pas bien. Mais je regarde des choses bien.
Alors, ton émission préférée, c'est quoi ?
Non, je partais de parler plus des films que je regarde. J'aime bien les thrillers.
Les thrillers, t'aimes bien ?
Ouais. Okay.
Ton rêve de bonheur ?
Bah, que mes enfants soient heureux et qu'il n'y ait plus de Covid.
Aussi. Quel serait ton plus grand malheur ?
Bah, de perdre mes enfants.
Ce que tu voudrais être ?
Parce que je suis, mais au mieux. Parce qu'on évolue toujours et on...
Et ok, c'est bonne réponse.
Voilà, je sais pas.
Alors, le pays où tu désirerais vivre ?
La France.
Il y aurait une autre région, par exemple, si... où tu serais tenté ?
La montagne.
La montagne.
Avec des chèvres.
La couleur que tu préfères ?
Le rouge.
La fleur que tu aimes ?
La rose Sonia.
Ah, c'est précis, hein ? L'oiseau que tu préfères ?
Le corbeau.
Et tes auteurs favoris, si tu en as plusieurs ?
Alors Baudelaire, avec ses fleurs du mal. Après, il y a Apollinaire et Mallarmé.
Ok, donc ça, c'était pour être préféré, quoi, un peu.
Que oui, que j'ai lu.
Que tu as lu. Tes héros favoris dans la fiction ?
J'en ai pas.
Ok, au niveau des films et tout ça, non.
Non, les héros masculins, non, je... Non.
Tes héroïnes favorites dans la fiction ?
Dans la fiction, donc il y a Anne Frank. C'est dans la fiction, ça. Simone Veil, elle est en France. Elle est vivante. Elle était vivante, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà. Et puis, il y a Uma Thurman dans Kill Bill.
Et donc, ta mère ?
Ben, Almodovar.
Donc, chat noir.
Chat noir, chat blanc.
Chat noir, chat blanc.
C'est ça.
Eh bien, pour Sonia, on écoute. Ah non, alors pas tout de suite. Axel me dit... Donc, on vient de recevoir le titre juste avant le questionnaire. Alors, on peut continuer.
Oui.
Est-ce que tu as des peintres favoris ?
Et j'ai oublié Léa Delmas aussi, dans mes héroïnes de fiction.
De fiction.
C'est dans La Résistance, ça.
Donc ça, c'est dans la fiction, lecture. Ça, c'est dans les films.
Moi, c'est dans les lectures. Oui, vous, la fiction, mais la fiction, c'est la lecture aussi. Moi, je suis plus lecture aussi. Je
ok. Sais. Et tes peintres favoris ?
Un Picasso.
Un petit Picasso, ouais. Oui. Et tes héros dans la vie réelle. Donc là, effectivement, on retrouve...
On retrouve... Voilà. J'en ai pas, moi.
Et tes héroïnes dans l'histoire.
Ouais, voilà, c'est peut-être plus ça que je m'étais trompée tout à l'heure.
C'est ça. Je pense que tu inversais un peu les deux. C'était les réponses, mais je me dis, tiens, c'est peut-être pour les questions d'après.
C'est cela. Léa Delmas, mais elle, c'est vraiment fiction, elle n'a pas existé.
Oui.
Ou sous un autre nom, certainement, peut-être. Et puis, Simone Veil, elle est quand même là.
Oui, elle est quand même là. Est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout ? Ah non, il y avait tes prénoms, c'est ça ? Tes prénoms favoris. Non, mais ce soir, c'est pas mal. Tes prénoms favoris, Sonia ?
Erwan, Mehdi, Zia. Donc, ce sont mes enfants.
Donc, tes enfants, donc, ils sont quel âge, tes enfants ?
Mehdi, 25 ans.
Ah oui, t'as un grand. Ouais.
Erwan, 18 ans. Et Zia, 6 ans.
6 ans. Donc, le grand, tu me disais que là, c'est un grand cuistot.
Oui. Chef cuisinier en Suisse, quand même.
D'accord. Donc, tu le vois un petit peu, oui ?
Bah, ça fait un an que je ne l'ai pas vu. Et là, on attend justement... De savoir s'il va pouvoir venir pour les fêtes de Noël.
Pour les fêtes de Noël.
Il est seul là-bas quand même aussi.
Donc quand il revient voir sa maman, c'est lui qui cuisine ou pas ? Ou c'est toi qui cuisine ?
Non, c'est moi.
C'est toi.
Et en plus, il me prend, enfin, je lui montre des choses et lui, il les fait après là-bas.
Donc il y a une transmission de savoir-faire au niveau de la cuisine.
Et oui.
Au niveau de la musique, Axel, c'est bon pour faire une petite pause musicale ? Donc je répète donc ta musique préférée, c'était Chat Noir, Chat Blanc. Donc eh bien, on l'écoute.
Merci.
Buba mara sose ni cheuel. Deboa, deboa, mangaboa. Buba mara koha počinel, Eiro malen ašunen, Eča voren kugle zurale, Buba mara čajorni, Baro grgavoj si ođili.
Džinđi rinđi buba maro cikni je, Šuži je, ajde moli voj romeca. Šužije, ajde moli voj romesa. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, ave tekela.
Za romalen pučela, ode oni fuzu i čudela, dela, dela sa čarle, Buba maru vojte arese, Eiro male našunen, Eča oren kugle šukaren, Život osvijek i špil, Tradela rom ajroni.
Čini rinđi buba maro, cikli je, čuži je, ajde.
Nous sommes de retour à l'émission Portrait d'un habitant et ce soir c'est une habitante avec Sonia. Il nous a fait partager sa dédicace. Donc, c'est chat noir, chat blanc. On continue le questionnaire, Sonia ?
Oui.
Alors, ce que tu détestes par-dessus tout ?
Les faux culs.
Mm-hmm. Caractère que tu méprises le plus ?
Les menteurs.
Mm-hmm. Le fait militaire que tu estimes le plus ? Que c'est ça, t'aimais pas...
Non, j'aime pas, je suis pas très militaire, j'aime pas l'armée, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire.
Très bien. Le don de la nature que tu voudrais avoir ?
L'immortalité.
Donc la question suivante, c'est comment tu aimerais mourir ?
J'aimerais pas mourir. Mais si je meurs, que ce soit tranquillement.
Mmh. Alors, l'état présent de ton esprit, comment tu te sens actuellement ?
Bien.
Donc, des fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence ?
Les erreurs, ce qu'on en fait tous.
Est-ce que tu as une devise, Sonia ? Une devise de vie ?
Toujours le point levé.
Toujours le point levé. Donc, nous avons une femme forte ce soir qui se bat et qui s'est battue.
C'est ça.
Est-ce que tu as autre chose à dire là pour voilà, des amis, des familles qui t'écoutent? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose, un petit mot?
Eh bien, je leur dis bonjour. Mm-hmm. Et puis, je leur souhaite plein de bonheur et qu'ils gardent la santé.
Ok.
Franchement, tous aussi, merci à Oulala.
C'était merci. Un plaisir de te rencontrer,
et moi aussi,
Sonia.
Franchement.
C'est une ouais. première rencontre, mais je pense qu'on ouais. va se revoir.
Je pense aussi. C'est cool.
Merci à toi.
Merci à vous.
Et puis, dès à présent, on se retrouve avec... on continue l'histoire des petits princes Andy. Et ce soir, nous allons entendre Adja et Alicia. Bonne écoute.
Les petits princes Andy. Un conte d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par les enfants de l'espace Leçon du quartier de la Rocade. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité dans silence.
Un mouton, s'il mange les arbustes et les fleurs?
Un mouton mange tout ce qu'il rencontre.
Même les fleurs qui ont des épines?
Oui, même les fleurs qui ont des épines.
Alors à quoi servent-elles les épines?
Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieuse car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire.
Les épines, à quoi servent-elles?
Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. Ce n'est de la pure méchanceté de la part des fleurs.
Oh!
Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune.
Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se...
Je ne répondis rien et à cet instant-là, je me disais... Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions.
Et tu crois, toi, que les fleurs ?
Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait.
De choses sérieuses ?
Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid.
Tu parles comme les grandes personnes.
Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta.
Tu confonds tout, tu mélanges tout.
Il était vraiment très irrité.
Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon.
Un quoi ?
Un champignon.
Petit prince était maintenant tout pâle de colère.
Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à quoi comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent à jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs, ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça. Un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça.
Il rougit, puis reprit.
Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part, mais si le mouton... mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement. Toutes les étoiles s'éteignent et ce n'est pas important, ça.
Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais, je lui disais « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. » Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. J'aime tellement mystérieux le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d'une graine apportée d'on ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croire et commença de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant
« Oh, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. »
Le Petit Prince, alors, ne put contenir son admiration.
« Que vous êtes belle, n'est-ce pas ? Et je suis née en même temps que le soleil. »
Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste. Mais elle était si émouvante.
C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi ?
Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au Petit Prince :
Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes.
Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe.
Mais je ne suis pas une herbe.
Pardonnez-moi.
Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens...
Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le Petit Prince dans son tort. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux.
J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Elle m'embaumait et m'éclairait.
Il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri, sous son globe. Il se découvrit l'envie de pleurer.
Adieu.
Mais elle ne lui répondit pas.
Adieu.
La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume.
J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux.
Il fut surpris par l'absence de reproches. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme.
Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille.
je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur.
Mais les bêtes,
il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Et pour les grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes.
Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta.
Ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir? Va-t'en.
Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. C'était Les Petits Princes en dit. Gardez la tête dans les étoiles, le voyage n'est pas fini.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose, à l'aurore du matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. De choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Radio Oulala sur la bande FM 103.1 MHz. Sablé-sur-Sarthe et en streaming sur laoulala.fr.
Alors j'ai le sourire là parce qu'on se retrouve pour l'émission Entrée des artistes et en face de moi j'ai deux clowns. Hein. Bonsoir Julie Bernard.
Bonsoir Nicolas David.
Donc Julie Bernard, vous êtes... Enfin non, tu es, pardon, on se tutoie bien sûr.
Bah, quand même Nico.
Tu es comédienne, danseuse et clown.
Oui.
Et dans le cabaret Molière, tu es Elvire.
Oui.
Et dans le parking, tu es Trincula.
Tout à fait.
Capitaine.
Capitaine Trincula.
Daniel Bertolo, salut.
Salut Nicolas David.
Donc tu es comédien, musicien et clown.
Tout à fait.
Dans le cabaret Molière, un Caliban et un Antoniol de parking.
Tout à fait.
Donc voilà, l'idée de cette émission, c'est de plonger dans le parcours d'artiste, comment vous êtes venu au clown, comment vous êtes venu à la comédie, comment vous êtes venu à la danse. Alors Julie, ça a commencé comment dans ta vie d'enfant, cette histoire?
Ah bah, j'ai commencé par mettre des petits chaussons de petites danseuses classiques,
ouais.
Des petits chaussons roses avec un petit tutu. Et puis voilà, après ça m'a amené, j'ai fait beaucoup de styles de danse. Et puis bizarrement après j'ai été dans le théâtre, j'ai fait des matchs d'impro. Là j'étais au lycée. Mm-hmm.
Et donc, puis... donc parcours lycée
Ah oui, par contre, au niveau scolaire, tout à fait traditionnel. Hein. Un bac littéraire, voilà. Et après, j'ai fait un Degard du spectacle à Paris, là, à la Sorbonne Nouvelle. J'ai fait, voilà, et après, j'ai dit, bah non, en fait, les études, là, c'est intéressant, mais c'est pas ma place. Et donc, je me suis dit, bah, je vais travailler, puis je vais me donner un an, en fait. Je me suis donné un an pour faire des boulots. Parce que j'avais un peu peur de... J'avais envie de faire du spectacle, mais j'avais un petit peu peur d'en vivre. Mes parents qui me disaient, ouais, faut trouver un travail qui
les
paye.
Parents.
Bah oui. Mais ils m'ont soutenue, hein, je vais pas dire quand ah même. Ouais. Oui, ils m'ont soutenue, mais bon, bah, comme tout parent, on assure les arrières, quoi.
Donc, t'es née à Rouen.
Oui, je suis née à Rouen.
Et donc, Paris, je sais pas, moi, la Sorbonne, ça fait waouh.
Ouais, je sais, ça fait classe ouais. sur le CV. ouais, non, mais c'était... Bah, en fait, c'est la seule fac qui a bien voulu de moi. Moi, je voulais aller à Saint-Denis parce qu'ils avaient un cursus plus, voilà, qui m'attirait plus. Où il y avait plus de pratique, justement. Et du coup, j'ai été prise qu'à la Sorbonne, qu'est-ce que tu veux voilà. Hein
oui, on va pas...
Donc voilà, j'ai fait 2 ans là-bas. Et puis, j'ai appris plein de trucs. Voilà, c'était super. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose.
D'accord. Alors, on va revenir après au vrai parcours d'artiste. Et toi, Daniel ?
Oui.
Alors, ça a démarré comment, cette histoire ?
Ça a démarré... Bah, déjà, tout petit, j'étais très petit. Et du coup, pour me faire accepter, on va dire, des autres, j'aimais bien amuser les galeries, quoi.
Mais enfin, Julie, pourquoi ça vous fait rire ?
Parce qu'il était petit pour de vrai, en fait.
J'ai toujours été petit.
Pourquoi il était petit, t'es pas grand, quoi. C'était non, pour de vrai.
J'étais tout petit. Vraiment. Et par contre, j'ai eu une formation de musique. J'ai fait le conservatoire tout jeune, jusqu'à l'adolescence, en percussion classique. Voilà. Et c'était un peu chiant, on va dire. Déjà, le conservatoire, surtout à l'époque, c'était un peu poussiéreux. Et puis, les percussions, c'est particulier parce qu'on ne joue pas beaucoup. On est au fond de l'orchestre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de percussionnistes, donc on est peu sollicité. Et puis des fois, on attend 5 minutes pour faire un coup de cymbale. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et c'est pas forcément toujours rigolo. Donc, je me suis mis au cuivre après. Voilà.
Oui, parce que tu me disais, hors antenne, que ton rêve d'enfant, c'était la trompette.
Oui, ouais, j'adorais la trompette, Jean-Claude Borelli, tout ça, j'adorais ça. Et du coup, je voulais être trompettiste. Et quand on s'est inscrit, ma maman m'a emmené au conservatoire pour m'inscrire en trompette. Le grand professeur Lamarche a dit « Oh, votre enfant a une dent cassée. Quand je ne vais pas le prendre, parce que quand il va se faire réparer sa dent, ça va tout changer, sa trompette, son jeu de trompette. » Donc on est ressorti. Et puis la pièce d'à côté, c'était la salle de percussion. Donc ma mère a dit « On va t'inscrire en percussion. »
C'est pas facile, des fois, les parcours.
Ouais.
Il y a des embûches. Et toi, tu es née à Rennes.
Tout à fait.
Alors, et toi, tu es normande. Beurre salé ou beurre doux ? C'est une question fondamentale.
Bah, moi, je me pose pas la question. En Bretagne, c'est salé, évidemment.
Moi, j'ai les deux dans mon frigo. Comme ça, tout le monde est content.
Ah, c'est une question fondamentale, n'est-ce pas, Axel ?
Mais elle s'en sert pas pour faire la même chose.
Alors maintenant, donc toi, tu as un parcours scolaire...
Classique. J'ai fait des études d'histoire de l'art en université. Mm-hmm. Et puis c'est pareil, j'étais un peu rebelle, de toute façon les études ça sert à rien, donc je suis parti travailler, faire des petits boulots. Et en parallèle j'étais musicien amateur dans des groupes et puis dans un big band, un groupe de reggae, enfin des choses comme ça. Et un copain faire une fanfare sur Echarpe et c'est comme ça que j'ai mis le pied. Ploup.
Donc justement on va aborder cette bascule, à quel moment en fait?
Bah c'est à ce moment-là, j'avais 21 ans, et j'ai découvert le milieu du spectacle de rue, j'ai adoré ce milieu, en fait, humainement, la chaleur humaine, les propositions, tout m'a plu, je me suis dit, je veux faire ça.
Ça voilà. Veut dire quoi, spectacle de rue ?
Bah, je dis spectacle de rue, bah, c'est le fait de... Tout, l'esprit, en fait, du spectacle de rue, qu'il n'y avait pas dans le milieu musical. C'est beaucoup plus ouvert, moi je dirais. Après, peut-être que je m'attirais des foudres. Mais le milieu musical, je trouvais ça assez ennuyeux. L'esprit des musiciens, assez enfermé sur soi-même. Enfin, très nombriliste un peu, je dirais, les musiciens.
Tu aimes vraiment te faire des ennemis.
Ouais, j'aime me faire des ennemis.
Et toi, Julie, quand est-ce que ça a basculé? Tu parlais des parents de tout à l'heure, mais ils t'ont accompagné.
Oui, oui. En fait, j'ai fait, comme je te disais, après la fac, en fait, j'ai fait des petits boulots, puis j'ai fait un an pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait plein de trucs super sérieux. Et à un moment, j'ai dit, bah non, en fait. Moi, j'ai envie de faire du spectacle. J'ai toujours dansé. Quand j'étais petite, toute petite, je ne m'en rappelle pas, mais je disais à ma mère que je voulais être costumière de théâtre. Voilà, donc je ne sais pas d'où ça sortait, mais je ne m'en souviens pas, mais c'est ma mère qui me l'a redit plus tard. Bref, je me suis dit, en fait, je vais prendre le risque de faire ça. Donc, j'ai fait une audition pour une école de théâtre.
D'accord.
Voilà.
Donc, parcours qui est redevenu classique, presque.
Oui. Enfin, c'était une école, c'était pas conservatoire, parce que au début, je me suis dit, bon, bah, il faut faire un conservatoire, tout ça. Et j'ai été voir une audition ouverte, ça m'a terrifiée. Enfin, puis je sais pas, il y avait un truc hyper... c'était un peu trop sérieux, quoi. Un peu trop académique. Donc après, j'ai été voir d'autres écoles, et puis j'en ai trouvé une où ça me plaisait, en fait, leur façon de parler du théâtre, du métier de comédien. Voilà, et puis j'ai fait 3 ans dans cette école. Puis après, en fait, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler comme comédienne. Mon premier boulot, c'était... En fait, c'est rigolo parce que j'ai été prise comme clown avant d'être clown, mais avant d'être formée. C'est-à-dire que mon premier travail, c'était pour une compagnie franco-anglaise. On a joué à Londres. Enfin, c'était mes premiers boulots. Enfin, c'était complètement fou parce que... mes premières scènes, c'était à Londres, voilà.
Non, mais c'est ça qui fait rêver dans ce métier. Souvent, on dit, oh là là, ils doivent vivre des tournées. Londres, d'aller jouer à Londres, c'est quelque chose quand même.
Ah ouais, c'était génial. Enfin, moi, c'était mes premières scènes payées en dehors de mon école. Parce que, voilà, après, en école, j'ai pas mal joué aussi. Mais c'était la première fois que j'étais sans filet. Et du coup, avec la compagnie Edlang Théâtre, qui était basée sur Paris, donc je passe l'audition et puis on était plusieurs, dont une clown qui avait fait Le Coq, qui était hyper... Enfin, moi, je ne pensais pas du tout être prise à cette audition. Et du coup, le lendemain, elle m'appelle, la directrice, elle me dit « Bah, en fait, c'est toi. » Et là, je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. C'est-à-dire que pour moi, j'avais fait cette audition comme un exercice et je ne pensais pas du tout être prise. Et donc, on a joué à Paris, puis on a joué surtout à Londres. On a fait une tournée, donc c'était chouette.
Et toi alors, Daniel, dans la rue, t'es parti en tournée, t'as...
Oui.
Raconte-nous des aventures, des expériences.
Oh là là. j'ai fait une tournée mémorable avec un groupe. Alors ça, c'était vraiment le côté un petit peu crevard, on va dire, de l'intermittent du spectacle qui veut absolument faire ses cachets. Avec un groupe de ska, on est parti en tournée dans les Alpes en hiver, donc à 9 dans un J5. Si les plus anciens se souviennent de ce que c'est qu'un J5 avec
mais
une remorque derrière.
Vous n'avez pas 20 ans?
Non, je n'ai pas 20 ans. On est parti pendant 2 semaines sur les routes. Donc, on traînait la remorque avec les amplis, les claviers, la cabine Leslie du Fender Rhodes et tout ça. Donc, on avait un gros paquet de matos. Et le J5 peinait un petit peu dans les côtes. Donc, il fallait qu'on descende du camion pour pousser dans les côtes de montagne. Et quand il repassait en troisième, on sautait dans le camion en marche. Jusque là, ça faisait un petit peu d'exercice. Et puis seulement au milieu de la tournée, la porte coulissante latérale nous a lâchés. Donc après, on ne pouvait plus l'enlever. On pouvait la déboîter pour ouvrir. Et après, en route, on ne pouvait pas l'enlever. Donc quand on peinait dans les côtes, il fallait sortir par la fenêtre, pousser le camion et rentrer, sauter par la fenêtre avec le camion en troisième pour pouvoir repartir.
Un film.
C'était un film. On avait des essuie-glaces qui avaient lâché, donc il y avait le chauffeur et celui qui était à sa droite qui tirait sur des ficelles pour faire marcher les essuie-glaces sous la neige dans les voilà, enfin tout un tas d'aventures comme ça.
Mais sinon, à part les Alpes, est-ce que t'es sorti de France? Est-ce que t'es allé?
Oui. Oui, j'ai joué.
Je sais pas, fais-nous rêver, t'es allé où ?
Eh bien, je suis allé... j'ai une longue carrière, mon cher Nicolas. Non, j'ai joué dans pas mal de pays d'Europe. Et j'ai joué au Maroc aussi. Qu'est-ce que je pourrais...
Je sais pas, moi, quand j'ai commencé ce métier, c'est ce qui me faisait rêver. Moi, j'avais envie de partir en tournée, évidemment jouer. Mais...
Ouais, bah oui, le voyage, ça fait partie. Après, moi, je suis pas très. J'aime bien la rencontre une fois arrivé, mais le trajet, ça me fatigue beaucoup. Les heures de camion, par exemple, en tournée, ça, à un moment, j'en pouvais plus. Moi, j'avais arrêté le groupe Sergent Pepper pour ça, notamment. J'ai tourné pendant quelques années avec ce groupe-là. J'ai dû faire 400 dates, peut-être, avec ce groupe. Donc, on a tourné énormément pendant quelques années. Et j'ai arrêté en partie à cause de ça, parce que j'en pouvais plus de monter dans le camion. Je savais même plus où est-ce qu'on allait à la fin, tellement j'avais l'impression de passer ma vie dans un camion. Et ça, j'aimais pas, le camion.
Et tu parles de Sergent Pepper, c'est un morceau que tu as choisi, là, juste pour faire une petite pause musicale. Tu as contribué à ce morceau-là qu'on va
tout
entendre.
Tout à fait.
C'est-à-dire tout à fait. C'est toi qui l'as écrit.
Oui.
Oh, Daniel Berthelot. Bon.
Et après, je vais vous questionner sur qu'est-ce que c'est quoi être clown.
Ouh là là.
Alors, on est toujours sur Radio Oulala, dans l'émission Entrée des artistes, avec Daniel et Julie. Alors, Julie, Daniel, c'est quoi être clown ?
C'est une grande question, déjà, Nicolas, David. Parce que, en fait, il y a autant de définitions du clown qu'il y a de personnes qui pratiquent le clown, je pense. Enfin, ça, c'est moi qui le pense. Mais moi, en fait... J'ai l'impression que le clown, c'est faire le vide à l'intérieur de soi et se laisser traverser par ce qui se passe. Parce que le clown, il existe dans l'instant, il existe que parce qu'il y a des gens qui le regardent. Et pour le clown, il meurt quand il n'y a plus personne, quoi. Enfin, son existence n'existe que parce que quelqu'un le regarde. Voilà. Après,
Daniel.
Pour moi, c'est un personnage, le clown, qui nous suit, qui peut nous suivre toute notre vie, donc qui est assez proche de nous parce qu'il évolue avec nous, il s'enrichit de tout ce qu'on vit nous-mêmes, des émotions qu'on peut traverser, des événements dans la vie qu'on peut traverser. Et c'est un personnage, c'est comme un filtre en fait. Quand on endosse ce personnage, on a un décalage, c'est nous-mêmes en décalé et qui peut jouer après tous les autres personnages. Il peut s'interpréter, le clown peut interpréter tout ce qu'il veut en fait.
Mais c'est-à-dire
par rapport à un personnage de théâtre, le personnage il va avoir un caractère.